Et bonjour à tous, on se retrouve pour un show devant spécial jeux vidéo et cette fois-ci je vous parle de Terra Nil. Et la problématique environnementale est une des questions majeures de notre époque et nos productions culturelles peuvent représenter de bons exemples de cela. Et l'un des exemples dont j'avais envie de vous parler, qui a été une très jolie surprise, c'est un petit jeu que j'ai découvert, Terra Nil. Alors Terra Nil, qu'est-ce que c'est ? Terra Nil, c'est un jeu qui a été édité par Devolver Digital et développé par Free Lives sur le thème de l'environnement. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est de transformer une terre stérile en un écosystème prospère et harmonieux. Vous devrez ramener un monde désolé à la vie, puis partir sans laisser de traces de votre passage. Et à l'origine de ce projet, vous avez trois hommes. Vous avez Sam Alfred, Jonathan Hoyun et Jared Lund. Et à la base, ils ont publié ce jeu en tant que prototype sur le site itch.io. Et en octobre 2020, les développeurs forment un partenariat avec les studios Free Lives pour améliorer leur création, donc c'est-à-dire améliorer les graphismes, améliorer tout le coding, toutes ces choses-là, et en faire le jeu que l'on connaît aujourd'hui. Et ce jeu sera édité par Devolver Digital et sortira le 28 mars 2023 sur PC. Alors quant aux intentions des développeurs, une interview de Jonathan Hoyun donnée pour le média GameRant, qui est en anglais, explique assez bien la volonté du studio de reprendre les mécaniques du City Builder, mais de les contrebalancer. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu comme dans les City Builder, on va retrouver la création, la gestion de structures, la gestion des ressources, le fait d'interconnecter tout ça, et on va ressentir un peu cette satisfaction en jouant d'avoir notre petit complexe, notre petit réseau qui est tout créé, c'est pour ça qu'on retrouve cette mécanique-là. Mais en même temps, c'est-à-dire que le but d'utiliser ces mécaniques, de construire ce réseau, de construire ce complexe, c'est pas de vous enrichir, c'est pas de vous étendre à l'infini. Non, le but du jeu, ça va être de reconstruire la vie, de reconstruire l'écosystème, de faire revenir la faune et la flore. Et ça, pour le coup, vous devrez renoncer à vos ambitions, parce qu'une fois que vous aurez fait tout ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez recycler tout votre travail, c'est-à-dire que vous allez tout récupérer pour pouvoir partir sans laisser aucune trace de votre passage. Et contrairement à un city builder, les zones de jeu vont avoir un espace assez limité, donc vous devrez faire attention à l'espace que vous utilisez. Et en plus, avec la gestion des ressources, ça c'est en fonction du niveau de difficulté que vous choisissez, mais on en reviendra un petit peu plus tard, vous allez apprendre à anticiper pour pas vous retrouver dans l'impossibilité de continuer votre partie. Et alors si jamais vous jouez au jeu, en ayant un minimum de connaissances en climatologie, en environnement, en sciences, vous pourrez peut-être constater que le gameplay reprend les concepts de rétroaction positive et négative. Alors moi je ne savais absolument pas ce que c'était avant de jouer à ce jeu. C'est concrètement, c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre en fait. Évidemment c'est de manière simplifiée dans le jeu, mais je vais vous expliquer en prenant justement l'exemple du jeu, du premier niveau. Donc c'est-à-dire qu'on arrive sur le premier niveau, c'est une zone tempérée, donc c'est une vallée fluviale, donc on a des rivières, il faut qu'on reconstruise des prairies, des rivières, des forêts, voilà, ça c'est tout le truc. Et pour ce faire, le jeu va nous donner accès donc à des structures qui vont permettre d'influer justement sur cette flore et en même temps d'influer directement sur la température et l'humidité, donc sur le climat. Il y a une structure que vous pouvez placer, c'est l'ensemenceur de nuages. Alors vous le placez et en fait ce qu'il va faire, ce petit ensemenceur de nuages, c'est qu'il va récupérer toute l'humidité qu'il y a autour de lui dans une certaine zone donnée, donc pour peu que vous ayez des rivières ou des lacs à proximité. Et ça va envoyer de l'humidité dans l'atmosphère. Et l'idée, c'est que le taux d'humidité va augmenter. Vous allez voir, en fait, en haut à droite, vous avez une petite barre en fait, qui vous permet d'évaluer constamment le taux d'humidité et la température dans l'air. Et ça, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va forcer artificiellement le taux d'humidité, forcément, parce qu'il va augmenter. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, vous allez atteindre un effet de seuil, c'est-à-dire vous allez atteindre un certain effet de, donc un point précis qui s'appelle un effet de seuil. Et en fait, à partir de cet effet de seuil, la pluie va tomber. Et qu'est-ce qui va se passer quand la pluie va se mettre à tomber ? C'est qu'elle va réhumidifier l'atmosphère. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ça va recommencer un petit peu l'action initiale. Donc c'est-à-dire que ça va, du coup, l'humidité va augmenter, donc il va recommencer à pleuvoir, donc l'humidité va augmenter. Voilà, et c'est ça en fait la rétroaction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cycle autoproducteur. Ça, c'est la rétraction positive. C'est quand la cause et la conséquence s'enchaînent l'une et l'autre. le même mécanisme qu'un cercle vicieux ou vertueux, c'est-à-dire que voilà, ça s'enchaîne, c'est cause-conséquence qui recrée la cause, qui recrée la conséquence, qui recrée la cause. Et donc ça c'est la version positive, et vous avez la version négative, ou qui est un petit peu l'inverse, en fait, où on refroidit, où on baisse le taux d'humidité. Et ce processus, tel qu'il est présenté dans le jeu, bah, forcément, c'est une version qui est simplifiée, mais qui a déjà été modélisée dans des contextes réels. Donc notamment, en fait, on s'en sert pour évaluer les conséquences du dérèglement climatique. Et c'est aussi ce schéma qui nous a permis bah, de confirmer et d'expliquer les différentes aires glaciaires bah, qu'a connues notre planète et qu'on appelle les aires boules de neige. La planète boule de neige, je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est-à-dire qu'on reprend en fait ce même concept. Et ça, c'est pour la genèse du jeu. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'ai envie de vous laisser avec une petite sélection des musiques que vous pourrez trouver dans le jeu et vous allez voir. L'ambiance est très relaxante.
Thank you.
voilà. Alors, est-ce que ça vous donne envie d'en savoir plus? En tout cas, je vous donne les noms des morceaux dans l'ordre. Vous avez Reclaiming the Vastland, excusez-moi pour l'accent, And Now We Live, Aurora et Final, qui est la musique des crédits de fin. C'est la dernière que vous avez entendue. Ce sont des... En fait, ces quatre morceaux correspondent aux quatre biomes qu'on peut réhabiliter. Et oui, parce qu'en fait, en parlant un petit peu plus du jeu, le jeu va se découper en différentes sessions que vous pourrez faire et refaire autant de fois que vous voulez. C'est un énorme avantage parce que comme ça, c'est vraiment, si vous n'avez pas énormément de temps devant vous, bah vous pouvez vous lancer une petite session et c'est vraiment, si vous avez un petit moment comme ça, c'est vraiment cool pour le coup. Le monde va comporter, donc c'est une planète, vous êtes sur une planète, le monde va comporter quatre zones différentes. Et chaque zone a un climat à elle et à une version alternative, donc ce qui vous fait environ 8 types de zones différentes. Sachant que les cartes sont générées de façon procédurale. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez vraiment... Il y a une énorme rejouabilité possible. Donc quand vous lancez une session, la map sur laquelle vous arrivez est stérile. Alors attention, vous avez donc ces 4 zones différentes. Vous avez la zone tempérée, une zone tropicale, un glacier et une ville inondée. Donc quand vous arrivez sur cette zone qui est stérile, vous devrez la réhabiliter. Pour ça, eh ben, vous avez 3 phases en fait, de niveau, et chaque phase a son lot d'objectifs. Donc, d'abord, vous allez devoir nettoyer et purifier la terre polluée pour pouvoir accéder à la deuxième phase. Une fois que vous avez la deuxième phase, vous allez devoir reconstituer la flore. Donc ça va être les forêts, les plages, les rivières, les récifs coralliens, les lagunes, voilà, toutes ces choses-là. Et une fois que vous avez fini cette phase, vous avez la troisième phase qui est de faire revenir la faune, c'est-à-dire les animaux, dans des environnements qui sont adaptés pour elles. Et en même temps, vous devez donc tout recycler et partir. Et en plus de tout ça, bah évidemment, vous devrez faire attention au climat et à vos ressources, parce que les ressources, c'est ce dont vous aurez besoin pour installer vos structures. Donc le jeu voilà, une énorme rejouabilité, hein, comme je le disais, et vous allez voir, on devient très très vite accro, pour le coup, hein, au bout de 2-3 parties, c'est... Oui, ça prend vite, c'est vrai que ça, on a vite envie d'y rejouer. Et heureusement, bah, pour ceux qui ont envie d'y rejouer, bah, ils proposent une difficulté qui est adaptative. Donc en fait, vous avez 4 façons de jouer. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas trop l'habitude, que vous êtes du genre casual gamer, et bah, vous avez la version paysagiste. Donc, c'est la version la plus facile. En fait, c'est un mode pensé pour être relaxant. Donc vous n'avez pas de grosses contraintes au niveau des ressources de départ. Les structures utilisées, elles vous coûteront très peu de ressources. Et vous aurez du didacticiel, des astuces durant la partie, et vous pourrez recycler vos structures si jamais vous avez des pénuries. Ce qui n'arrivera pas. Vraiment, par rapport à ce que vous avez dès le départ, vous êtes très très large. Donc le but, bah voilà, c'est pas de s'arracher les cheveux, c'est de profiter de la gratification, de redonner vie en fait à tout un écosystème, ce qui est extrêmement gratifiant, mais ça je le développerai un petit peu plus longuement. Donc c'est un mode de jeu qui est parfait quand vous démarrez le jeu, quand vous comprenez les mécaniques, et pour peu que vous soyez pas habitué ou friand des jeux de stratégie trop prise de tête, c'est parfait. De plus, comme je l'ai dit, les games ne sont pas très longues en général, donc ça c'est bien si vous voulez vraiment vous faire bah, une... Parce qu'en plus, vous allez voir, le jeu est disponible sur iOS et Android, donc mettons que pendant une petite pause déj ou pendant, je sais pas, des transports ou quand vous avez du temps à tuer, bah, vous pouvez très bien vous lancer une game, mais voilà, ce sera pas très très long. Par contre, si vous voulez du challenge, alors ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez en avoir, ça, il n'y a pas de problème. Et alors là, ça va être une autre histoire. D'abord, vous avez le mode normal, donc qui est nommé écologue. Et alors là, pour le coup, vous avez un petit peu moins de ressources. Vous avez quand même un petit peu de marge, mais ce n'est pas non plus énorme. Et les structures vont vous coûter légèrement plus de ressources. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont vous coûter 100% de ce qu'elles coûtent normalement. Dans ce mode de jeu, les 4 premières cartes sont quand même bon, voilà, assez faciles à terminer, surtout si vous avez joué une première fois au jeu et que vous avez compris les mécaniques. Après, quand vous arrivez aux 4 niveaux alternatifs, là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que là, concrètement, si vous voulez compléter ces niveaux, il va falloir que vous ayez une certaine maîtrise des mécaniques de jeu ou bah, que vous ayez l'habitude en fait, de ce type de jeu. Pour ma part, j'ai dû recommencer une ou deux fois certaines cartes. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à utiliser le système de monorail, qui est en fait un système de transport. On peut mettre tout un système de réseau pour déplacer des structures. Et voilà, ça m'a permis de faire de belles économies. Et oui, parce qu'au début, et ben malheureusement, vous allez devoir vous la jouer capitaliste pour économiser suffisamment de ressources. Pourquoi ? Et ben parce que pour pouvoir vous garder suffisamment de ressources de côté pour avoir une plus grande liberté d'action dans les deuxième et troisième phases. Et d'ailleurs, voilà un petit conseil. À partir de la deuxième étape, visez la tombée de la pluie ou de la neige. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va finir de nettoyer et de purifier votre carte. Et en plus, ça va vous apporter quelques ressources. En général, c'est vraiment ce que j'ai pu faire. Et quand je suis arrivée dans les derniers niveaux avec ce mode de jeu, j'ai vraiment ressenti la satisfaction du mastermind. C'est-à-dire que la satisfaction où on commence à bien maîtriser les trucs, on commence à bien maîtriser les mécaniques et on se dit « Oh là là, je suis trop forte !» Et pour le coup, bah, j'avais bien 40 heures de jeu à mon actif, donc c'est un petit peu logique. Mais c'est avec le mode expert, aka ingénieur environnemental, que là, j'ai vraiment découvert l'aspect véritablement stratégique du jeu. Parce que là où dans le mode normal, bah, bon, voilà, vous allez anticiper, optimiser quand même parce qu'il faut, là c'est vital et vous avez très très peu de marge d'erreur. Concrètement, vous commencez avec le même nombre de ressources que le mode normal, mais les structures vous coûteront 25 à 30% plus cher que ce qu'elles coûtent. Donc là, déjà, c'est vraiment une optimisation. Il y a certains niveaux, vous êtes obligé de les recommencer plusieurs fois. Et pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de retour en arrière possible quand vous avez posé vos structures. Alors autant vous dire que vous devrez recommencer un niveau plusieurs fois pour trouver le bon angle sous lequel aborder votre carte. Après, si aucun de ces modes ne vous convient et que vous avez vraiment envie de faire de la rejouabilité, eh ben vous pouvez adapter les différents critères comme vous le souhaitez et vous créez votre propre mode de difficulté. Et vous allez voir que vous avez quand même pas mal de marge. Vous pouvez très bien commencer avec beaucoup moins de ressources et mettre des structures beaucoup plus chères. Enfin là, pour le coup, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Au niveau de la musique, le jeu a une véritable ambiance, une ambiance extrêmement relaxante au niveau sonore. En fait, on retrouve un petit peu le même style que dans les derniers Zelda, donc Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, c'est-à-dire qu'on a le bruit des éléments qui est très présent, donc on entend le vent, les feuilles, les oiseaux, et on a quelques notes de musique par-ci, par-là, vraiment qui se fondent bien dans l'ambiance. Et en fait, la musique, quelque chose que j'aime énormément, c'est que la musique, elle évolue au cours de votre game. Plus vous donnerez vie à votre carte, plus la musique, en fait, retrouvera des couleurs, des instruments, plus elle s'intensifiera, jusqu'à atteindre le point culminant où vous arrivez à la fin du niveau. Parce qu'on a vraiment le sentiment, en fait, que la musique personnifie quelque part l'environnement. Et cette musique, elle est signée Maiden. Et Maiden, c'est un compositeur français de 30 ans. Et oui, Cocorico. Alors à l'origine, il compose des musiques libres d'utilisation que vous pouvez retrouver notamment sur Free Music Archive, sur Bandcamp ou encore sur YouTube, tout simplement. Pour avoir déjà écouté, c'est vraiment un genre de musique qu'on peut écouter quand on lit ou quand on travaille. Et on est un peu dans un esprit lo-fi, mais c'est une branche qui est beaucoup plus relaxante, qui est beaucoup plus contemplative. C'est quelque chose qui est vraiment très apaisant. Mais je vous laisse écouter Fight, qui est l'un de ces morceaux, que vous pourrez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Voilà, à titre personnel, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Alors, pour parler un petit peu plus de mon ressenti sur le jeu, je pense que vous connaissez sans doute l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». Et bah là, effectivement, on n'en est plus vraiment à ce stade. C'est-à-dire que les biomes sur lesquels on intervient sont arides, sont asséchés, parfois sont pollués, sont irradiés. Et forcément, ça nous renvoie un petit peu à nos angoisses, à notre responsabilité sur l'état actuel de notre planète. Et le niveau sans doute qui nous renvoie le plus à ce rôle, à cet impact, c'est sûrement celui de la ville irradiée, en fait, où les ruines des immeubles côtoient l'océan pollué. Donc forcément, se retrouver face à ça au début, ça peut être déconcertant, voire déprimant. Ça cristallise bien l'angoisse de beaucoup de monde sur l'avenir de notre planète. Et on peut être tenté de se dire que, oh là là, c'est encore un truc culturel qui nous rabâche que la pollution, la planète. Mais non, en fait, justement, c'est pour moi, pour ça que le jeu, il est important. Parce que là où on va arriver sur un biome, on peut le réparer. En fait, on a un pouvoir d'action, on va pouvoir réparer cet espace et en faire un havre pour la faune et la flore. Et d'ailleurs, le jeu est extrêmement gratifiant et il y pense justement aux joueurs parce qu'une fois que vous avez réhabilité la Terre, vous pouvez prendre en fait quelques secondes ou plus pour apprécier ce qu'elle est devenue. Et en fait, ça vous lance une petite cinématique où voilà, vous avez la caméra qui se balade et c'est extrêmement chouette à regarder parce que le jeu est très très beau hein, visuellement, c'est très bien fait. Pour ma part, un biome que j'aime beaucoup voir, c'est celui de l'archipel, donc le biome tropical. Mais ils sont tous vraiment très très beaux à voir. Et puis il y a quelque chose en fait d'extrêmement satisfaisant dans le fait de reconstruire cette nature. Et on est très vite tenté d'apprécier le fruit de notre dur labeur. Surtout quand on a joué en expert et qu'on s'est arraché les cheveux pendant plusieurs heures, ce qui a été mon cas ces dernières semaines. Et il y a un vrai côté cathartique dans ce jeu. Même si au niveau, voilà, il se base sur des concepts scientifiques réels. Mais il peut effectivement paraître très légèrement irréaliste par moment, et c'est normal, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est pas un simulateur de laboratoire non plus. Vraiment, le but de ce jeu, c'est de nous redonner du pouvoir. C'est-à-dire que là où dans la réalité, on va parfois, même souvent peut-être, se sentir impuissant, ici, on se retrouve face à un environnement sur lequel on arrive à agir, et mine de rien, ça nous rassure aussi sur notre capacité à préserver notre planète. Après, si jamais vous voulez agir plus concrètement, sachez que si vous décidez de vous procurer ce jeu, une partie des recettes sera directement reversée à l'Endangered Wildlife Trust. Bon, j'ai un accent anglais assez terrible. Bon, personnellement, je ne connaissais pas. Mais en gros, pour vous résumer ce que c'est une ONG qui existe depuis 1973. Elle a pour vocation de participer à conserver un maximum les écosystèmes et les espèces menacées d'Afrique australe, donc qui est notamment une région du monde d'où est inspiré aussi le jeu. Donc pour ça, en fait, elle va monter des programmes d'action, de recherche, de conservation et soutenir la gestion durable des ressources naturelles. Leurs actions entrent notamment dans le cadre du programme de développement durable en remplissant plusieurs objectifs. Par exemple, liste non exhaustive, il y a l'action pour le climat, l'éducation de qualité ou bien contre la faim dans le monde. Vous pouvez les soutenir déjà en achetant le jeu, mais aussi en faisant un don, en partant en voyage avec eux ou en visitant leur boutique ou même en devenant bénévole. Mais là, pour le coup, je vous invite à aller voir leur site pour en savoir plus. Après, si vous voulez jouer au jeu, du coup, parlons un petit peu plus concret. Comment est-ce qu'on y joue? C'est simple, le jeu est disponible sur PC, iOS et Android. Déjà, vous pouvez l'acquérir sur le site du jeu. En petite parenthèse, je le trouve visuellement très très beau. Mais vous pouvez aussi l'acquérir sur Steam, ce qui a été mon cas, sur Epic Games, sur GOG ou sur Netflix pour les versions iOS et Android, parce que c'est Netflix qui a distribué ce jeu pour ces plateformes-là. Vous pouvez également vous procurer l'OST du jeu ainsi que les artbooks. Mais attention, parce que les artbooks sont disponibles seulement en anglais sous-titré espagnol. Et là, vous les procurer sur Steam sous forme de DLC. Vous allez en fait sur la page de la boutique. Guise de conclusion, je crois que je ne peux que paraphraser et traduire Jonathan Hoyoun, qui disait: je pense que lorsque nous sommes entourés de nouvelles de catastrophes climatiques ou de visions post-apocalyptiques et dystopiques du futur, il devient facile de tomber dans l'apathie et de penser qu'un avenir sombre est inévitable. Au lieu de cela, nous donnons aux joueurs la solution pour les sortir du découragement. Un désert désolé, les outils pour le changer sont à votre portée. Nous les calmons avec une musique douce et délicate et une DA magnifique et luxuriante. Nous essayons de nous pencher davantage sur le fait que la nature est pleine d'émerveillement et de beauté, qu'il vaut la peine d'en prendre soin et de la préserver. Mais la chose la plus touchante pour moi, ça a été de lire des tweets de personnes qui ont dit que jouer au jeu les avait fait pleurer de manière inattendue. Quelqu'un a mentionné sur Twitter que lorsque la pluie est tombée, quelque chose a traversé sa dépression et qu'il a pleuré pour la première fois depuis longtemps. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de cathartique dans le fait de prendre soin de la nature. Oui, restaurer et préserver l'environnement est bon pour nous, pour avoir des terres, un air et une eau plus propres, et pour limiter les catastrophes climatiques. Mais, et cela va sembler terriblement ringard, mais je le crois, je pense que cela restaure aussi quelque chose en nous. Et pour le coup, il a un petit peu tout dit, c'est-à-dire que je suis d'accord avec l'éco-anxiété et la culpabilisation écologique qui nous oppresse de plus en plus. Je pense qu'on n'a plus que jamais besoin de reprendre espoir en nous. Et ce jeu ne prétend pas révolutionner le monde ou résoudre les problèmes environnementaux. Il nous permet simplement de reprendre espoir et de nous faire comprendre que nous aussi, nous pouvons en avoir un impact positif sur le monde. À sa manière, ce jeu nous répare et contribue à nous faire grandir. Et au fond, n'est-ce pas le premier pas pour changer le monde? Merci d'avoir écouté cette émission. Sachez que j'ai fait une version écrite de cette petite émission. Vous pourrez retrouver plein d'extraits de ma partie, de mes parties et de captures d'écran. Vous pourrez les retrouver sur le blog que je vous mettrai, que vous aurez dans la description de l'émission. C'était Chaud Devant, spécial jeu vidéo. C'était une émission d'Esprit Occitanie. Vous pourrez la retrouver sur le site ainsi que sur l'application. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un peu de gaming.